Bonjour à tous. Jusqu'à l'année dernière, en France, on a eu recours à des machines de prélèvement de sang dont certaines étaient défectueuses et des particules d'un produit potentiellement cancérigène se sont retrouvées dans du plasma. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Jacques.
Vous avez enquêté sur les méthodes douteuses, on va le voir, de la société qui commercialise ces machines. Et vous allez nous raconter avec quelle légèreté aussi les autorités sanitaires ont géré cette crise. Alors je précise que cette enquête, vous l'avez réalisée en collaboration avec nos confrères du site d'information en ligne Bastamag.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Welcome to the Haemonetics Plasma Center. Modern plasma collection centers focus on producing high quality, safe plasma at the lowest cost.
Ce que vous entendez là, c'est une vidéo promotionnelle de la société américaine Haemonetics qui promet à ses clients de produire du plasma de qualité à bas prix. Mais on va voir qu'en France, cette promesse n'a pas vraiment été tenue puisque certaines de ces machines ont dû être suspendues il y a un an. Alors vous allez nous expliquer pourquoi, Sylvain Tronchet, mais d'abord dites-nous, Haemonetics, c'est quoi précisément ?
C'est une société américaine, c'est le leader mondial de la gestion du sang. Haemonetics fabrique notamment des machines de prélèvement qu'on trouve dans les centres de dons du monde entier.
Mais pourquoi avoir besoin de machines pour prélever du sang ?
Eh bien, il en faut lorsqu'on veut prélever du plasma ou des plaquettes. Le don de sang classique, c'est on vous met une aiguille dans le bras, le sang part dans une poche en plastique et quand elle est pleine, on arrête. Mais quand on veut seulement le plasma ou seulement les plaquettes, on va brancher le donneur sur une machine. Et la suite, c'est le président de la Fédération française des donneurs de sang bénévoles, Michel Monseiller, qui nous l'explique.
On va prélever 200 à 300 millilitres de sang que l'on va centrifuger pour sortir le plasma ou les plaquettes, puisque les deux produits sont prélevés par cette technique. Et ensuite, on va réinjecter au donneur les globules rouges et le plasma ou les plaquettes, suivant le type de produit que l'on veut sortir. Pour prélever 650 millilitres de plasma, il va falloir 4 à 5 passages successifs. Donc 4 à 5 prélèvements successifs de sang, puis centrifugation, puis retour au donneur des éléments que l'on ne va pas retenir.
Ah oui, donc le sang du donneur va dans la machine, on prend ce dont on a besoin et on lui renvoie le reste.
Exactement, c'est ce qu'on appelle un don par aphérèse. Ça permet de collecter beaucoup plus de plasma qu'à partir des poches de sang classiques. Or, le plasma, c'est un enjeu très important aujourd'hui. On en a besoin dans les hôpitaux, bien sûr, mais l'immense majorité du plasma collecté ne va pas chez les malades, du moins pas directement, comme l'a raconté François Charpentier de l'EFS, l'établissement français du sang.
Le plasma devient en fait une matière première d'un processus pharmaceutique qui consiste à en extraire des protéines pour en faire des médicaments dérivés du sang. Et là, le besoin est en croissance exponentielle. La France, aujourd'hui, sur ce plan-là, alors qu'elle l'est sur les autres, n'est pas autosuffisante. On n'est plus dans le domaine du produit sanguin, faut le comprendre. On est dans le domaine du médicament.
Ouais, donc le plasma, ça sert surtout, on l'entend, à faire des médicaments. Et donc, pour l'obtenir, ce plasma, on a donc recours à ces machines.
Et il y a trois grands fabricants dans le monde. Mais Haemonetics, c'est le principal fournisseur de l'EFS, du moins l'était, jusqu'à il y a un an.
Ouais, jusqu'à il y a un an, parce qu'on a découvert des choses assez surprenantes.
Oui, et pour comprendre de quoi on parle, il faut remonter à 2012. Haemonetics équipe alors la plupart des centres de prélèvement de l'EFS. Mais ces machines vont commencer à tomber en panne de plus en plus souvent. À l'époque, Jean-Philippe Huréchaud est le directeur technique d'Haemonetics en France et du terrain lui remontent des informations étranges.
Les clients m'ont appelé en toute confiance en me disant « Jean-Philippe, est-ce que tu es sûr que les pièces que l'on nous met dans les machines sont neuves ?» Parce qu'on a toujours les mêmes problèmes qui reviennent à répétition. Le coût de la maintenance explose. Donc je vais chercher à me renseigner, j'ai eu des informations par les techniciens qui eux se plaignaient quand ils déballaient les pièces, ils avaient honte de les sortir tout simplement des cartons. Sur des pièces neuves il y avait du sang, il y avait de la rouille, quand il est monté ça faisait du bruit, ça tournait pas rond, ça marchait pas du tout, c'était catastrophique.
Catastrophique, mais qu'est-ce qui se passait alors ?
Du côté de l'EFS, ce qu'on soupçonne, c'est que si les pièces détachées sont sales, Et si elles ne tiennent pas, c'est parce qu'elles ont déjà servi. En clair, Kymonetix leur vend des pièces usagées récupérées sur d'autres machines.
Et c'était le cas ?
Eh bien, dans un premier temps, le vice-président Europe d'Kymonetix affirme au cadre de l'EFS, les yeux dans les yeux, que c'est impossible, qu'ils ne font pas cela. Mais en fait, il sait que les pièces qu'il fournit sont usagées et défaillantes, comme le prouve ce mail que nous avons obtenu, que lui envoie à la même époque sa directrice technique.
J'ai demandé un contrôle de toutes les centrifugeuses qui ont été envoyées à l'EFS Rhône-Alpes et une seule a passé les tests avec succès. Je ne crois pas qu'il soit acceptable d'envoyer à l'EFS des centrifugeuses qui sont non seulement non conformes, mais en plus avec des traces de sang et de graisse.
Et donc la direction d'Kymonetix était au courant de ce qui se passait.
Oui, et d'autant plus que la société y avait un intérêt, hein, parce que les pièces d'occasion tiennent moins longtemps, du coup il faut les changer, et les coûts de maintenance explosent, comme me l'a raconté l'ancien directeur d'Kymonetix France, Alexandre Berthelot.
Quand, par exemple, une machine tombait en panne et que le technicien intervenait, et qu'il évaluait que c'était par exemple la carte mère qu'il fallait changer, la carte mère était changée et elle tombait en panne 15 jours ou 3 semaines après. Alors on facturait 2, 3 000 euros de carte mère. En fait, in fine, j'ai fini par découvrir après mes investigations que c'était la pile qui était défectueuse. Et quand le technicien intervient, il est parfaitement conscient que ce dysfonctionnement est lié à la pile qui ne fonctionne plus.
Non mais c'est très grave là ce qu'il affirme.
Et ça devient tellement visible qu'au bout de quelques mois, Kymonetix est obligé de l'avouer. Oui, la société américaine recycle des pièces d'occasion en violation du contrat qu'elle a passé avec l'EFS. Ce qui lui vaut ce mail du directeur général de l'établissement public, Stéphane Noël, qui n'a pas apprécié qu'un dirigeant d'Kymonetix lui mente.
Ses propos ont clairement induit l'établissement en erreur, ce qui est extrêmement grave et regrettable. Nous souhaitons des explications précises. L'EFS n'échangera plus et ne signera plus aucun contrat avec des personnes concernées par ces affirmations.
Ouais, donc là, il n'y a plus d'ambiguïté. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait alors, Sylvain ? On rompt le contrat ?
Pas du tout. Ça aurait dû justifier un signalement à la justice. C'est en tout cas ce qu'a dit la répression des fraudes quand elle a eu connaissance de ce dossier des années plus tard. Mais en fait, tout va se régler dans le plus grand secret et aboutir à une transaction, comme nous le raconte l'ancien cadre de l'entreprise, Alexandre Berthelot.
On s'attendait à une pénalité qui soit assez importante, qui soit de l'ordre de 300, 400, 500 000 euros. Et de manière surprenante, les conclusions de la négociation aboutissent à des dédommagements de l'ordre de 40 quelques mille euros, 42, 43 000 euros, qui sont des sommes un peu ridicules par rapport au préjudice réel. On est assez sidéré que ce soit des dommages et intérêts aussi faibles.
Donc l'affaire se règle par un simple dédommagement.
Oui, pour 46 000 euros hein, précisément, et on n'en saura rien à l'époque. Tout a été consigné dans un accord qui devait rester secret, où il est acté qu'Kymonetix n'a pas commis de faute. L'établissement français du sang a accepté l'inacceptable pour Guilain Cabantous, délégué CGT à l'EFS.
L'EFS accepte les arguments d'Kymonetix qui proposent de réaliser une transaction secrète de 46 000 euros pour clore l'affaire, la garder secrète et que l'EFS renonce à tous ses droits ultérieurs de se retourner contre Kymonetix. L'EFS n'a pas bien défendu ses intérêts, mais au-delà, l'EFS n'a pas permis aux autres établissements publics en lien avec Kymonetix, notamment les hôpitaux, de prendre la mesure des difficultés qu'on pouvait rencontrer avec ce fournisseur. Et ça, à mon avis, c'est grave.
Ouais, grave, dit ce délégué CGT. Mais comment est-ce qu'on justifie ça du côté de l'EFS ?
Eh bien, j'ai posé la question à son porte-parole, François Charpentier, et écoutez ce qu'il m'a répondu.
On a signé un protocole transactionnel parce qu'on a estimé que c'était comme ça qu'on défendait le mieux les intérêts de l'EFS dans sa mission de service public, mais on a mis ce fournisseur sous surveillance. On l'a audité à deux ou trois reprises. On a mis ce fournisseur sous surveillance et au moindre dérapage, à la moindre anomalie, il est convoqué et il s'explique.
Il s'explique donc, Kymonetix est placé, on l'entend, sous surveillance, Sylvain. Est-ce que ça veut dire que tout rentre dans l'ordre ?
Eh bien non, parce que parallèlement à cette affaire de pièces détachées qui se règle en mai 2013, il y en a une autre qui a débuté un peu plus tôt, en 2011. C'est en Rhône-Alpes que le phénomène est repéré. Les centrifugeuses Kymonetix se mettent à vibrer, elles font beaucoup de bruit Et dans certains cas, on voit des particules noires qui apparaissent dans le plasma.
Et c'est quoi ces particules ?
Jean-Philippe Huréchaud, le directeur technique France, en est certain. Pour lui, ces particules sont des morceaux des deux joints qui assurent l'étanchéité de la centrifugeuse.
Il y a deux pièces qui frottent l'une sur l'autre, qui sont, à mon avis, mal fabriquées. Et donc qui s'usent, qui libèrent des choses, des poussières très fines. Parfois plus grosses, on retrouve carrément des copeaux de ces disques sur le dessus de la machine. Et on retrouve aussi des choses dans le plasma. Soit on les retrouve sous forme de particules visibles, assez grosses, soit on voit des particules très fines qui tombent dans ce plasma et qui se diluent et qui disparaissent.
Bon, et il y en a eu beaucoup des incidents de ce type ?
Eh bien, rien que pour l'EFS Rhône-Alpes, près de 150 incidents en un an. Pas toujours avec des particules, hein, mais des vibrations anormales, des fuites au niveau du joint. Immonetics explique au début que c'est un problème de réglage de la machine. Mais en mai 2011, la directrice de l'EFS Rhône-Alpes est excédée et écoutez ce qu'elle écrit par mail à la société.
Je ne suis pas satisfaite de cette réponse et je ne peux m'en contenter. Sans mesures correctives claires et rapides, je suspends l'utilisation des machines sur ma région. Je ne veux plus attendre après des mois sans correction de ces anomalies.
Ouais, donc elle est assez radicale.
Oui, ce mail provoque un mouvement de panique en interne chez Immonetics. D'autant que la société vit exactement la même crise aux Pays-Bas au même moment. Là-bas aussi, on a retrouvé des particules noires dans des poches de plasma. L'une d'elles a même été transfusée à un patient. Dans des mails internes que j'ai pu lire, un cadre d'Immonetics écrit que c'est le business qui est en jeu. Et le président d'Immonetics en Europe s'inquiète de la possible propagation de la crise.
Alors comment elle va se régler finalement cette crise ?
Eh bien, Immonetics va changer de modèle de centrifugeuse, elle semble présenter moins de problèmes, et on ne va plus en parler, du moins pour un temps. Mais là aussi, il va y avoir une transaction financière intrigante entre l'EFS et Immonetics.
Une transaction ? Mais qu'est-ce qui justifie une transaction là ?
Eh bien, toute cette histoire va occasionner une perte de production pour l'établissement français du sang, plus des coûts supplémentaires du fait du changement de dispositif. L'EFS va donc demander à Immonetics de lui rembourser ses pertes, ce qui paraît normal. L'EFS va d'abord toucher environ 2 millions d'euros, et puis sans qu'on comprenne pourquoi, l'établissement va annoncer à Immonetics que la société ne lui doit plus rien avant la fin prévue des remboursements.
Et il y avait encore beaucoup à rembourser ?
Eh bien, d'après des documents internes d'Immonetics, encore 1 million d'euros. Mais l'EFS décide d'y renoncer. Je leur ai demandé pourquoi. Ils ne m'ont pas expliqué, mais ils affirment avoir défendu au mieux leurs intérêts.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Alors, on a vu que la société Immonetics a vendu des machines défectueuses, qu'elle a fait passer des pièces usagées pour des pièces neuves et que l'établissement français du sang a été, disons, très indulgent à son égard. Maintenant, on va voir que les transactions qu'on vient d'évoquer, transactions financières, n'ont pas mis fin aux incidents.
Non, en fait, les machines vibrent toujours, les joints ne tiennent pas et en 2014... cela va provoquer un nouveau type d'incident. À plusieurs reprises, les machines vont renvoyer le sang vers le donneur de façon intempestive avant la fin de la procédure.
Et c'est dangereux, ça ?
Ça peut l'être, et c'est pour cela que ça inquiète tout le monde à l'époque. Mais surtout, Immonetics va dissimuler les causes de ce problème à l'EFS. Le fabricant explique que les machines sont perturbées parce que les plaquettes sanguines ont tendance à mousser dans les bols de centrifugation. Mais dans le même temps, le directeur technique, Jean-Philippe Huréchaud, participe à une réunion où on lui sert une autre version.
On apprend en fait que ce n'est pas un problème d'air dans le bol, mais c'est bien le même problème de vibration de bol. Effectivement, ça crée de la mousse, mais ça crée de la mousse parce que le bol est ouvert, parce qu'il vibre. Et là, la machine se plante, effectivement. Et donc, on nous explique, lors de cette réunion, que ben voilà, c'est ça, mais il ne faut pas le dire.
Donc Immonetics aurait voulu cacher la vérité à l'EFS ?
J'ai pu me procurer un enregistrement de cette conférence téléphonique. On y entend le responsable Europe de la recherche et développement de la société expliquer ce qu'il faut dire à l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, et à l'EFS.
C'est une communication que l'on doit faire à l'ANSM et qui est la même à l'EFS. Ce sera de dire, ben non, Cosbol circulé, il n'y a rien à voir. Il va falloir le tourner comme il faut, oui, quand même. Cause centrifugeuse circulée, il n'y a rien à voir, mais à l'interne, on continue l'investigation quand même. Par contre, on vous propose une atténuation via une reconfiguration du procédé qui n'altère ni le produit ni la sécurité du donneur.
Ouais, c'est ce qu'on appelle des éléments de langage. Et l'EFS va avaler ça?
Oui, parce que la configuration des machines va effectivement mettre fin au problème de retour intempestif des bols de sang vers les donneurs. Mais ça ne va pas arrêter les problèmes de vibrations et de particules. Comme l'explique toujours lors de cette réunion, le même responsable, il a constaté ces problèmes à plusieurs reprises sur les centrifugeuses des machines d'un modèle qu'on appelle les MCS+.
À Toulon, il y avait clairement quelque chose de pas-clop avec la centrie. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la centrie en Italie, où j'ai observé le même phénomène, il y avait des petites particules noires autour de la centrie. Il y avait aussi du bruit pendant les procédures de plasma. Mon opinion, c'est que je suis persuadé que 90% des MCS françaises, elles ont le couvercle mal ajusté. Tout simplement parce qu'on l'a vérifié au moment où on avait les particules noires et qu'il n'y a pas de raison que ce soit amélioré depuis puisqu'on n'a rien fait.
Ouais, on n'a rien fait, autrement dit, on n'a pas réglé le problème.
Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de solution. Les machines sont mal conçues. C'est ce qu'on comprend quand on écoute toute cette conférence téléphonique. Et c'est ce que m'a confirmé l'ancien directeur d'Immonetics France, Alexandre Berthelot.
Il dit qu'ils n'ont pas de solution et on comprend aussi qu'ils n'ont pas de solution parce qu'ils ne veulent pas en trouver, quoi. Ils veulent que ce soit, comme il le dit lui-même d'ailleurs pendant la conférence téléphonique, à moindre coût. Le but, c'est de régler le problème à moindre coût.
Et on le règle, ce problème, alors ?
Officiellement, oui. Le problème des particules noires s'arrête en 2011. Pendant les 5 ans qui suivent, plus aucun cas de particules, de fuites, de vibrations n'est signalé aux autorités sanitaires. Mais sur le terrain, Jean-Philippe Huréchaud, le directeur technique, constate tout autre chose.
Moi, j'entends les machines qui font du bruit, je vois les bols qui vibrent. Quand on nettoie les machines, de la poussière grise partout, de temps en temps des particules. Les infirmières mettent des poches de sérum physiologique ou des poids sur les centrifugeuses pour arrêter le bruit. Mais quand on envoie quelque chose, il n'y a pas de retour. Donc, la déclaration ne se fait pas.
La déclaration ne se fait pas, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que ces incidents ne sont pas remontés aux autorités. Ou alors, lorsqu'ils le sont, ils sont considérés comme insignifiants. Et de fait, il n'y a plus de surveillance renforcée autour de ces machines.
Alors que le problème, lui, continue.
Oui, et pour les anciens cadres que j'ai rencontrés, la situation, à ce moment-là, n'est plus tenable. Ils n'acceptent plus de cautionner ces dysfonctionnements, comme le raconte Alexandre Berthelot.
Pour moi, l'entreprise est malhonnête. Elle ment à ses clients. Dans le cadre d'un marché public et de santé publique, avec un risque sanitaire qui est non négligeable, la possibilité d'intoxiquer les patients et les donneurs avec ces particules. Donc pour moi, c'est éthiquement inacceptable.
Alors, j'ai bien sûr contacté Immonetics. Ils assurent respecter la réglementation. Ils affirment que leurs produits sont sûrs. Mais ils n'ont pas répondu aux questions précises sur leurs pratiques commerciales. Toujours est-il que les anciens cadres français sont licenciés. Ils décident donc d'écrire à l'établissement français du sang pour l'alerter sur les pratiques de la société en décembre 2015.
Et comment il réagit, l'EFS ?
Eh bien, leur courrier fait bondir le directeur général de l'EFS, Stéphane Noël, qui écrit un mail au cadre dirigeant de l'établissement. Nous l'avons fait lire.
Nous avons été amenés à constater des dérives avec cette entreprise. Mais là sont dénoncés d'autres faits ayant trait à la qualité de la maintenance et au processus de gestion des changements avec possiblement des impacts sur la qualité produit. Même si nous ne devons pas nous laisser manipuler par d'anciens salariés licenciés, dans le cas d'espèce, le courrier transmis est étayé et mérite que nous définissions collectivement une approche à l'endroit de cette société.
Ouais, donc à l'établissement français du sang, là, on semble prendre le problème au sérieux.
Apparemment, oui. Et pourtant, rien ne se passe. L'EFS ne les reçoit pas, l'ANSM non plus. Il faut attendre février 2017 et l'apparition d'un article dans Mediapart qui évoque les méthodes d'Immonetics. Cet article n'a pas beaucoup d'écho dans le grand public, mais à l'EFS, au ministère de la Santé, il ne passe pas inaperçu. Et les anciens cadres d'Immonetics vont alors être entendus, comme le raconte Jean-Philippe Huréchaud.
Là, effectivement, ça, c'est ce qui fait bouger les choses. Alors, on va être reçu par l'ANSM, qui nous pose des questions, qui nous dit qu'il prend tout ça en compte, et donc nous rassure complètement, et on se dit, ça y est, c'est bon, on pense que les choses vont rentrer dans l'ordre.
L'ANSM réagit donc, mais ça va plus loin. Le ministère de la Santé demande une inspection de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, sur cette affaire.
Et elle donne quoi, cette inspection ?
Les inspecteurs de l'IGAS entendent le patron de l'EFS, François Toujas, qui est lui-même un ancien inspecteur de l'IGAS. Et au final, leur rapport, même s'il relève de nombreux dysfonctionnements, blanchit complètement la gestion de l'EFS.
Mais Sylvain, c'est normal que des inspecteurs de l'IGAS enquêtent sur un ancien collègue ?
C'est une vraie question, hein, d'autant que l'un des deux auteurs du rapport connaissait très bien François Toujas pour avoir travaillé directement avec lui. J'ai demandé à l'IGAS s'il n'aurait pas dû se déporter comme c'est possible en pareil cas. L'IGAS m'a répondu que ça ne posait pas de problème parce qu'il n'était pas seul à travailler sur ce rapport.
Bon, toujours est-il qu'à ce moment-là, donc, tout rentre ou tout semble rentrer dans l'ordre. Les incidents se tassent, l'EFS, on vient de le dire, est dédouané. Sauf que l'accalmie va être de courte durée, mais ça, on le voit dans quelques instants.
She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. Nuts melt in her mouth, but not in her hand. No need to figure it out. She just likes
Prenant un James Bond entre jazz et pop minimaliste, c'est le nouveau single d'Iggy Pop, extrait de l'album qui doit sortir d'ailleurs vendredi prochain et, s'il vous plaît, en partenariat avec France Inter.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Bien, alors reprenons le cours de notre récit maintenant, Sylvain Tronchet. On vous a quitté en 2017, l'établissement français du sang est dédouané par l'inspection générale des affaires sociales. On pourrait donc croire que l'incendie est éteint, sauf que la médiatisation qui a lieu à l'époque va relancer tout de même la crise.
Oui, elle va mettre une grosse pression sur l'EFS, qui demande à ses centres de surveiller de près les machines Immonetics. Et d'un seul coup, les signalements de fuite, de particules repartent à la hausse. La NSM en reçoit 10 rien que pour les mois de février et mars 2017. Les autorités sanitaires doivent donc réagir. La NSM constitue un groupe d'experts chargés du dossier et l'EFS demande à un laboratoire de Lyon d'examiner 4 poches de plasma dans lesquelles on a retrouvé des particules.
Et il dit quoi ? Il conclut quoi ce laboratoire ?
Eh bien, il dit que les particules sont bien composées des mêmes éléments que les joints des machines Immonetics. Et quelques semaines plus tard, le groupe d'experts rend une conclusion à la NSM dont nous avons fait lire des extraits.
Le danger d'une production de particules par les joints tournants des dispositifs Immonetics est établi. L'exposition des donneurs et des personnes recevant des produits sanguins est respectivement probable et possible. Si une évaluation des risques fiables n'est pas obtenue très rapidement, il faudra envisager la suppression des dispositifs médicaux contenant des joints mobiles qui peuvent libérer des substances connues pour leur toxicité potentielle à faible dose.
Attendez, toxicité potentielle à faible dose, c'est-à-dire ?
Eh bien, les experts ont obtenu d'Immonetics la composition précise des deux fameux joints qu'on n'avait pas jusque-là. En fait, le premier est composé d'une résine phénolformaldéhyde, un produit connu pour être cancérigène. Et dans le deuxième, on trouve aussi des substances potentiellement toxiques, comme de l'aluminium. Ce que disent les experts, c'est qu'il leur faut juste quelques précisions de la part d'Immonetics pour pouvoir faire une analyse précise des risques liés au prélèvement par aphérèse. Ils prennent même la peine d'écrire que ça ne sera pas long.
Et elle donne quoi alors, cette analyse ?
Eh bien, il n'y aura pas d'analyse. Parce qu'étrangement, l'ANSM ne réunira plus jamais ce groupe d'experts sans leur donner d'explication. Et au contraire, en décembre 2017, l'agence publie un avis dont voici un extrait.
Pour l'ANSM, la balance bénéfice-risque de l'aphérèse reste extrêmement positive. En effet, il n'existe pas d'éléments objectifs qui remettent en cause le bénéfice-risque, y compris pour ce qui concerne les donneurs. Ce constat vaut pour la nature et la composition chimique des particules dont la toxicité potentielle n'est pas démontrée.
Ouais, donc pour l'ANSM, il n'y a pas matière à s'inquiéter, quoi.
Oui, et surtout, étonnamment, l'ANSM n'envisage jamais que les particules retrouvées dans le plasma proviennent des joints de la machine. Elle s'appuie, en fait, sur une autre étude qu'elle a fait faire par le CEA qui a déterminé que les particules retrouvées dans quatre poches de plasma étaient des protéines de sang séchées. Mais elle ne cite jamais la première étude, celle demandée par l'EFS, qui dit que, dans quatre autres poches, les particules étaient bien des morceaux de joints.
Oui, ce qui semble quand même poser question. Et alors, comment on justifie ça, la NSM ?
Eh bien, nous sommes allés la voir pour le lui demander. Et voilà ce que Thierry Thomas, qui est en charge du dossier à l'agence, nous a expliqué.
Nous prenons une décision qui tient compte d'un ensemble de paramètres. Établir un rapport bénéfice-risque, c'est mesurer les bénéfices. Les bénéfices de la phérèse, tout le monde les connaît. Plus de 520 000 patients traités chaque année avec des produits dérivés du sang. Et concernant les risques, eh bien, on a tenu compte de nos données de vigilance, des investigations que l'on a pu réaliser, des retours que nous avions des autres autorités compétentes européennes sur ces dispositifs médicaux pour établir que fin 2017, en tout cas, les risques étaient maîtrisés et donc établir que le rapport bénéfice-risque était favorable.
Ouais, risque maîtrisé, donc on n'exclut pas qu'il y ait pu avoir un risque, mais on estime qu'il est inférieur en fait au service rendu par ces machines.
Oui, en gros c'est ça, oui. Et ça provoque quelques remous à la Fédération des donneurs de sang bénévoles. Son président, Michel Monseiller, estime qu'on ne peut pas mettre dans la balance le bénéfice et le risque lorsqu'on parle de donneurs.
Le bénéfice-risque pour le patient, il est entre guillemets mesurable, à savoir quel est l'intérêt pour le patient du plasma pour pouvoir le soigner. En ce qui concerne le donneur, le bénéfice-risque, la notion est un peu ambiguë en ce sens que le risque, il existe, mais le donneur ne retire aucun bénéfice de son don. Donc à partir de là, bénéfice-risque, pour nous, ça ne veut rien dire, puisque le fait de donner son sang présente plutôt des risques que des bénéfices.
Ouais, risque ou pas, en tout cas, en attendant, Sylvain, les machines de prélèvement d'Immonetics, elles, on continue de les utiliser.
Absolument. À ce moment-là, début 2018, les anciens cadres de la société se disent que tout va continuer, comme si de rien n'était, se souvient Jean-Philippe Huréchaud.
Ah ben là c'est la fin des haricots parce qu'on n'a plus rien. Après on fait quoi ? On ne sait plus vers qui se retourner. Donc on se dit là on est dans une impasse. On va pas s'en sortir. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne sait pas. On ne sait pas trop.
On le sent un peu abattu, cet ancien dirigeant, effectivement. Sauf qu'un nouveau rebondissement, Sylvain, va rebattre les cartes.
Oui, 6 mois plus tard, à la fin de l'été dernier, un incident inexplicable se produit, comme le raconte François Charpentier de l'établissement français du sang.
Le 24 août 2018, une procédure de prélèvement sur plasma à Tarbes, qui se passe juste normalement. Aucune alarme machine, aucun bruit, l'opérateur est formel. Et on constate dans le produit en sortir de machine un produit mais bourré de particules, impressionnant, voilà, et qui plus est des particules même à l'extérieur sur la machine, à tel point que l'infirmière dit mais j'ai regardé si c'était pas la bouche d'aération supérieure qui avait craché quelque chose. Voilà. Et il y a un deuxième incident similaire à Annonay, le 10 ou le 11 septembre.
Et du coup, dès le 12 septembre, donc, l'ANSM décide cette fois-ci de suspendre les machines de prélèvement de plasma immunetics. 300 machines sont mises à l'arrêt, c'est la moitié du parc de l'EFS, et elles le sont toujours à ce jour.
Donc le problème des particules est réglé ?
Eh bien non, parce que l'ANSM a interdit l'utilisation des machines de prélèvement de plasma, celles qu'on appelle les PCS2, mais il existe des machines très similaires, les MCS+, qui servent à prélever les plaquettes. Et celles-ci sont toujours utilisées, ce qui semble aberrant pour l'ancien directeur d'Immunetics France, Alexandre Berthelot.
C'est évident qu'à partir du moment où on prend une bonne décision, qui est celle de retirer les PCS2, on ne peut pas ne pas retirer aussi les MCS+, qui sont potentiellement plus dangereuses. Et d'ailleurs, en 2011, au moment de l'apparition de ces particules noires de manière importante, 90% de ces particules noires sont produites à partir de MCS+. Donc l'EFS et l'ANSM sont parfaitement conscients que ce sont des machines qui sont susceptibles de produire plus de particules noires et plus souvent. Et pourtant, elles sont toujours en utilisation.
Toujours en utilisation, mais comment on explique ça à l'ANSM ?
On explique que les machines MCS+ ne présentent pas de risque pour les donneurs. Et Thierry Thomas de l'ANSM a été formel, il n'y a pas eu d'incident ces derniers mois.
Nous n'avons pas rencontré de problématiques de type particules pouvant mettre effectivement en risque, en danger, un donneur ou un receveur.
Alors effectivement, le registre des incidents de l'ANSM ne comporte aucun signalement de ce type pour 2019. Le problème, c'est que nous avons eu accès à des données internes chez Immunetics et nous y avons vu 6 incidents où des particules noires ont été signalées depuis le début de l'année sur les machines qui restent en service.
Bon alors là Sylvain, il faut aller plus loin. Est-ce que oui ou non, parce que compte tenu de ce que vous nous dites, on se pose la question, est-ce que oui ou non, avec ces particules noires, on a mis en danger à un moment la santé des donneurs de sang ou des patients ?
Eh bien, tous les spécialistes que nous avons consultés nous ont dit qu'il était difficile de répondre formellement à cette question en l'absence d'études précises, puisque justement, elle n'a jamais été faite. Mais ce qui est certain, c'est que des substances toxiques peuvent être restituées aux donneurs. Quand on en a parlé à l'EFS et à l'ANSM, on nous a répondu que si c'était le cas, les doses étaient trop faibles pour présenter un danger. Mais c'est une idée contestée par le toxicologue André Sicolella, qui connaît bien ces sujets.
L'idée que le risque est proportionnel à la dose est une idée fausse pour les substances de type perturbateur endocrinien. Donc ça n'est plus, on ne peut plus gérer par la dose. Ce vieux schéma de pensée qui remonte aux années 50, en fait. Donc quand on sait ça, on doit prendre des mesures d'éliminer, effectivement. Et on a souvent, c'est un problème de recherche et de développement, les produits d'emplacement existent, et s'ils n'existent pas, on les trouve. C'est pas impossible. Et donc utiliser des substances clairement toxiques dans les dispositifs médicaux, c'est une hérésie.
Une hérésie. En attendant, on ne sait toujours pas clairement si on a mis en danger la santé des donneurs.
Alors, on saura, peut-être, mais il faudra attendre. Car l'EFS, qui a bien conscience qu'il y a là un vide, a quand même lancé une étude, comme l'a expliqué son porte-parole, François Charpentier.
On a initié une étude épidémiologique de grande envergure pour répondre à cette question, qui est de savoir, est-ce qu'on a des troubles de la santé qui se manifestent en comparant les populations, la population générale, la population des donneurs de sang, la population des donneurs d'aphérèse et à l'intérieur de celle-là, en fonction du type de don et du type de machine. Donc cette étude de grande envergure menée avec l'INSERM de Bordeaux est en cours. C'est une étude qui va durer, moi je dirais, on en a pour 3 ans, 4 ans avant d'avoir une réponse, mais on l'aura.
Il faudra donc attendre quelques années, tout comme il a fallu attendre quelques années pour faire le jour sur les méthodes d'Immunetics, tout comme il a fallu attendre quelques années pour remplacer les machines que le principe de précaution aurait pu conduire à suspendre nettement plus tôt.
Ouais, ce qui n'est pas très rassurant et pourtant ce sera votre conclusion, Sylvain Tronchet. Merci. Alors je précise que votre enquête, on peut la réécouter, la lire ou la podcaster sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Vous pouvez également nous y laisser vos commentaires, tout comme vous pouvez le faire sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France ou sur Twitter Investigation RF. « C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer et réalisée par Christophe Imbert. La programmation musicale était signée Jean-Baptiste Audibert et à la technique, il y avait Fabrice Desmaz. Dans quelques instants, vous retrouverez Emmanuel Quirad et sa librairie francophone. C'est en effet vous, bonjour Emmanuel.
Bonjour Jacques.
Qui nous succéderait désormais. Alors, au programme de cette première, qu'est-ce que vous nous proposez ?
L'actualité culturelle francophone, comme chaque semaine, avec Sorge Chalandon, qui est l'un des événements de la rentrée littéraire. Kauter Hadimi, l'écrivaine algérienne, qui publie un roman sur des enfants qui portent une révolte. Zep, le créateur de Titeuf, qui publie
la BD.
Et voilà, mais une bande dessinée, cette fois, sur les super-héros. Et puis, nous interrogerons tout au long de l'année le monde de l'édition sur le thème de l'écologie.
Bon, on a hâte de vous entendre, c'est donc tout à l'heure. Et puis, je précise aussi, Emmanuel, que nos auditeurs retrouveront désormais Denis Chessou et CO2 Mon Amour, ça continue, mais ce sera le dimanche, donc
à
demain.
À 13h20.
À 13h20, absolument. En attendant, moi, je vous souhaite un excellent week-end.